Hier soir à la télé, il y avait Roberto Saviano, l'écrivain sur la mafia napolitaine. Et à la fin, je me suis dit, si l'Église est une secte qui a réussi, le capitalisme est une mafia qui réussit.
Salut à tous les AMG. N'oubliez pas le repère du Centre Var ce soir au Café de l'Oasis à Brignoles. Et Monsieur Sarkozy, on peut se réunir dans un café pour parler? Même si on parle politique? C'est pas un attroupement interdit? Ouais. Enfin, pas encore. Bah, au train où vont les choses, on a intérêt à en profiter. Allez, salut.
Bonjour à tous les AMG. La France a aussi ses crédits subprime. Chez nous, ça s'appelle le crédit revolving. Une réserve d'argent permanente et délivrée sans aucun contrôle sérieux par les banques. Seul intérêt pour elles, le taux, qui est celui de l'usure, c'est-à-dire plus de 20% quand elles achètent leur argent à 3% environ. Ainsi donc, cette pratique qui consiste à encourager la consommation par l'endettement à des taux prohibitifs existe aussi chez nous. La conséquence en est simple, une augmentation du nombre de surendettés en France, ils sont aujourd'hui plus de 700 000. Et on imagine ce que cela va devenir avec les conséquences de la montée du chômage. Alors, puisque le gouvernement a trouvé de l'argent pour sauver les banques qui s'étaient égarées dans la spéculation, je propose qu'il oblige ces mêmes banques à sauver ceux qu'elles ont poussés au surendettement. La mesure serait simplissime. Contraindre ces banques à renégocier ces crédits revolving à 20% en des crédits ordinaires à 5%. Ce qui ne serait que justice et permettrait à ceux qui sont en train de mourir à petit feu d'avoir une chance de se relever. C'était Pascal Dumont.
Merci pour vos messages, chers AMG. Aujourd'hui, nous, c'est Bread and Roses, du pain et des roses. On a trouvé l'endroit où cette expression est née, cette revendication sublime est née dans des bouches des femmes, des filatures d'une ville qui s'appelle Lawrence, qui est à côté de Boston. Et en 1912, dans cette ville, qui était faite de quantité d'usines, qui sont encore là d'ailleurs, on voit ces usines fantômes, immenses friches industrielles, d'immenses cubes de briques rouges, bruns, c'est à la fois beau et pathétique, surtout lorsqu'on sait ce qui s'y est passé, donc en 1912, des grèves énormes de ces travailleurs, travailleuses, venus d'Europe, des immigrés, portugais, anglais, russes, italiens, allemands, de tous les côtés, et des Français sont venus travailler là dans des conditions épouvantables. L'une des revendications, c'était la réduction du temps horaire de travail. On voulait le réduire de 2 heures, passer de 56 heures à 54 heures par semaine, réduire l'âge des enfants pour le travail, augmenter, etc. Il y avait des cas de famine, il y avait des cas, c'était terrifiant les conditions de travail. Grève, 1000, 2000, 5000, 10 000 de ces travailleurs se mettent en grève. Et que font les directions des usines? Eh bien, ils envoient la garde nationale, 22 compagnies de garde nationale, 2 régiments de cavalerie avec baïonnettes, avec armes, avec grévistes abattus, avec des histoires terrifiantes. Des histoires terrifiantes qui montrent une fois de plus le côté impitoyable de ce système, mais aussi à quel point nous ignorons toutes ces luttes. Ici, elles sont tout à fait ignorées aux États-Unis. Nous ignorons, nous, Français, qu'il y en eut de telles aux États-Unis, et nous ignorons aussi notre propre histoire sociale, l'histoire de ces luttes. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dans la basse, si j'y suis, on va s'intéresser à des ouvrières, non pas des ouvrières des filatures, mais des petites mains de la haute couture, ou du moins de la haute confection, qui assistaient à une assemblée d'actionnaires bien particulière et qui fut relaté par Pascal Pascariello et François Ruffin. C'était le 30 mai 2005 et je pense que ce reportage peut avoir un certain écho avec les échos qui me parviennent de ce qui se passe dans notre bel hexagone ces jours-ci. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, j'appelle pour signaler le lancement d'un nouveau café repère en Dordogne. Pour les beaux jours, il se déroule dans le cadre enchanteur de la guinguette du lac de Neufond, près de Vers. C'est à 30 km au nord de Bergerac et 20 au sud de Périgueux. mais nous recherchons un café sympa pour nous accueillir sur Bergerac à partir de septembre. Ce jeudi 23 avril, à la Guinguette donc. À partir de 18h, nous vous attendons nombreux pour débattre de la consommation durable en bergeracois et également organiser nos futurs cafés repères. Pour ceux qui le souhaitent, un repas bio sera proposé pour poursuivre la soirée par les charmantes cuisinières de la Guinguette. Il faut réserver au 05 53 07 87 92. Merci et à jeudi.
Pour le public, il n'y a pas de fric. Pour le privé, j'en ai trouvé. Pour le public, il n'y a pas de fric. Pour le privé, j'en ai trouvé. Enseignement de soutien, supprimé, supprimé. 13 000 postes d'enseignants, supprimé, supprimé. 3 000 postes de recrutement, supprimé, supprimé. Mais les jardins d'enfants payants, on a les financements. Pour le public, il n'y a pas de fric. Pour le privé, j'en ai trouvé. Pour le public, il n'y a pas de fric. Pour le privé, j'en ai trouvé. Vendredi 24 avril, repère des Estérés du Lac à Montauroux dès 18h au Café de l'Autre Monde chez Hervé. On parlera de l'école de demain, enfin ce qui va en rester. On a invité Philippe Val, mais c'est pas sûr qu'il soit là. Ciao vive, portez-vous bien.
On attend toujours Monsieur Bernard Arnault.
Bernard Arnault, nous voilà.
Monsieur Arnault.
Nous, n'oubliez pas que maintenant je suis actionnaire.
Ah ouais.
Et votre banquier, il a dit quoi quand vous êtes allé acheter l'action?
Elle m'a regardé tout bizarrement. Elle me dit une action, mais vous n'en voulez pas plus? J'ai dit non, une. Elle dit, c'est pas votre genre, acheter des actions. Ben, j'ai dit, il faut changer dans la vie, hein. Maintenant, je vais être actionnaire.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah bah si j'y suis avec François Ruffin et Pascal Le Pascariello, l'Assemblée des actionnaires.
Bonjour, je vous rappelle à tous que la ceinture est obligatoire.
Oui.
En cas de contrôle de police, c'est 135 euros d'amende pour la personne qui n'est pas attachée, bien sûr.
Marie-Hélène, là, on est... c'est les deux quarts qui se suivent.
Oui, et ils sont plats. Nous sommes une centaine. Je vais prendre le micro du chauffeur et je vais annoncer où est-ce qu'on va exactement. Il n'y a personne qui sait où on va exactement. Et vous pouvez écouter, je vais prendre le micro.
Je vais écouter.
Alors, notre opération aujourd'hui, nous allons au Palais du Louvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. LVMH, qui est notre donneur d'ordre à ECCE, et c'est quand même, c'est lui qui décide où on fabrique les costumes que nous fabriquons encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la journée des actionnaires, et ils se rassemblent au Palais du Louvre, dans une salle. Donc il y aura sûrement Bernard Arnault. Donc nous allons manifester sans se bagarrer, hein. Distribution de tracts, nous allons mettre la SENO pour aussi s'expliquer pourquoi on est là, nous les salariés, faire voir notre travail, hein, comme Marivonne, et puis c'est la chaîne de Marivonne, il y a plusieurs qui ont travaillé là-dessus, ont fabriqué des petits costumes en miniature, alors on va les appeler Oscar et Gaston. Donc ils ont fabriqué deux costumes, un costume Kenzo et un costume Givenchy, hein, avec le logo Made in France, vous verrez. On construit des grands costumes, c'est déjà difficile, mais des petits, c'est encore plus difficile. Donc vous verrez le savoir-faire de ces filles, et c'est ce que nous allons démontrer à LVMH, que nous, on veut absolument que l'entreprise vive encore. Donc nous allons tout faire pour que cette société ne ferme pas. On ne veut pas aller ailleurs. On ne veut pas aller en Roumanie, ni en Pologne. Donc nous, on a travaillé là des années et on veut rester là. Si LVMH, il nous donnerait des costumes à fabriquer, on pourrait rester là. Donc c'est comme c'est notre donneur d'ordre, il faut absolument qu'on se fasse entendre. Voilà notre destination aujourd'hui.
Ouais.
Et ben voilà, vous avez tout compris. Elles sont une centaine dans cet autocar, dans ces deux autocars venant de Poix-du-Nord. Poix-du-Nord, près de Maubeuge, Poix-du-Nord, où se trouve leur entreprise ECCE, entreprise de confection et de commercialisation européenne. Alors voilà, dans cette entreprise, depuis fort longtemps, elles y fabriquent des costumes, de la couture de très grande qualité, de la confection de qualité. Et puis, cette entreprise est devenue sous-traitante du groupe LVMH. Mais voilà que, eh bien, scénario tout à fait classique. En France, le coût d'un costume bien cousu, bien construit, on dit construit, est autour de 110 euros de coût de revient. Et ben, dans où vous voudrez, en Pologne, en Roumanie ou en Bulgarie, c'est 30 euros pour des costumes qui sont en moyenne revendus autour de 1000 euros. Voilà. Alors évidemment que dans ces cas-là, le patron de CCE est bien contraint de partir pour ces pays et de laisser ses ouvrières sur le carreau. Quel costume fabrique-t-elle ? Elle fabrique des costumes de marque Kenzo, très jolis, très chic, Kenzo, Givenchy, très jolis, très chic, Givenchy. Et tout ça, ce sont des marques du groupe prestigieux, premier groupe de luxe du monde, LVMH. Alors évidemment, ça la fout mal. Ça la fout mal au point de vue dialogue social, image de marque, etc. Or, elles se battent. Vous entendez Marie-Hélène Bourlard, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et là, ce jour-là, pour enfin, dialoguer avec ceux qu'elle considère comme les responsables de leur malheur et de ce sentiment de rejet, de mépris qu'on peut tout à fait comprendre et partager. Elles arrivent à Paris. Certaines, vous allez le voir, ne connaissent pas trop cette ville. C'est grand, c'est beau, c'est bon, enfin bon. Voilà, l'important, c'est de rester dans le Nord, c'est de pas se faire virer, c'est d'essayer de vivre tout simplement et de travailler au pays. C'est donc leur lutte et leur destination aujourd'hui, la journée des actionnaires.
Moi, je suis pour vous. Accroche à ton cœur à morceau de chiffon rouge.
Pas de connard, hein.
Une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi, car il est temps. Allons droit devant. Les poings et en serrant les dents, nous réveillerons la terre entière, et demain nos matins chanteront. Compagnons de colère, compagnons de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas. Tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie.
Son empire s'appelle LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Bernard Arnault règne sans partage sur Dior, Givenchy ou Dom Pérignon et tous ceux qui incarnent le luxe dans le monde. Comment gère-t-il son empire ? Comment est-il devenu la 7e fortune mondiale ?
Selon nos calculs, en 2005, il aurait perçu par mois plus de 9 millions d'euros, près de 13 000 euros de l'heure. Mais il n'admet pas que l'on puisse trouver ces sommes exagérées.
C'est plus amusant de dire « Monsieur Attel gagne autant et regardez ça, c'est beaucoup trop. » Voilà, ça c'est plus amusant à dire que « Regardez ce monsieur, bon d'accord, il gagne un peu, il gagne très bien sa vie. » Mais voilà le nombre d'emplois qu'il crée et voilà l'impact que ça a sur l'économie française. Moi, c'est plutôt cet aspect-là qui me paraît nécessaire de mettre en avant, parce que la réussite d'un pays, je vous l'ai déjà dit, elle vient de la réussite de ses entrepreneurs.
Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Voilà ce qu'on peut lire sur le Panthéon à Paris. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et quels sont ces grands hommes auxquels la patrie est reconnaissante? Ce sont des hommes politiques, des scientifiques, des écrivains, des grands esprits, des chercheurs. Mais, on me dit qu'il n'y a aucun homme d'affaires. Il n'y a aucun businessman. Eh bien, il faudrait quand même y songer. Parce que si on écoute quelqu'un comme Bernard Arnault, voilà un grand homme auquel la patrie devrait être reconnaissante tant il développe notre pays, son image, l'image de notre pays, c'est-à-dire le luxe à travers le monde, et puis le business, et puis les profits, et puis les emplois. Alors ça, sur la question des emplois, c'est lui qui le dit, mais voilà que ces 140 ouvrières, 147 ouvrières ne sont pas d'accord. Disent l'inverse. Elles sont venues lui dire. Il a peut-être pas fait attention. Il est pas au courant de tout quand on est à la tête d'un empire de cette dimension, et qu'on gagne 13 000 euros de l'heure. On peut parfois être un petit peu distrait. Donc voilà pourquoi elles sont venues à Paris dans l'espoir de le rencontrer. Elles sont dans le car et elles se dirigent vers la capitale.
Ouais, je disais qu'on avait fini de payer la maison il y a 5 ans et on n'a pas un sou de côté malgré pour ça. Hein. Je te jure, la vie elle est tellement dure, on a de plus en plus de mal.
Vous avez acheté votre maison ?
Oui, je l'ai acheté il y a 20 ans maintenant. Hein. Et il y a 5 ans que je l'ai fini de payer. Quoi. Bon, quand on perd notre travail, on va peut-être obligé de revendre la maison. Pour pas s'endetter, quoi. Parce que, bon, on s'est privé aussi pour certaines choses. Hein. Les vacances, je me souviens pas d'y avoir été, du reste. Mais bon, comme on se plaît à la maison, pour nous, c'est le soleil tous les jours. Hein.
Quand t'as plus de travail, tout ça, moi, je dis autant partir. Nous, on envisage de partir. Bah, du coup, dès du midi...
Et là, tu trouves que là-bas, il y a plus de travail?
J'y suis dit, allez, hein. Ils vivent pas comme nous.
Nous, dans le Nord... Oui, ils sont plus cool. Nous, on est beaucoup plus speed. Moi, je ne quitterai pas ma région quand même. Non. Moi, ma vie, elle est ici. Je vois pas pourquoi je m'en irais.
Si t'as plus de travail, t'as plus rien.
Partir loin de toute votre histoire.
Ah oui. Hein.
Moi, je pourrais pas oublier tout ça. C'est pas possible.
Oui, parce que toi, t'es à fond dedans.
Mais même partir, comme tu dis, au soleil. Mais voilà. C'est pas sûr que la vie, elle est plus agréable au soleil. Hein.
Non, c'est pas ce que je veux dire. Hein.
Vous avez les yeux tout humides, toutes les deux, là, je
vois. Bah, vous savez, c'est dur, hein.
Ouais. Moi, je sais que dans notre chaîne, on s'entend bien. Ils cassent tout, de toute façon, ils cassent tout. Soit les chefs, ils cassent tout. Hein.
Les chefs cassent tout.
Quand tu vois qu'ils passent pour ramasser les machines qui vont s'en aller devant toi.
C'est-à-dire comme ils vont faire un atelier à la logistique, un atelier de production avec les prototypes et les collections. Et donc ils sont en train de programmer ça et ils regardent les machines qu'ils vont prendre. Mais l'ouvrière est encore à sa machine. Et on met un papier sur la machine en disant on va prendre cette machine-là. Et l'ouvrière est encore dessus. Alors ça, c'est pas acceptable, quoi. Il y a des façons de pas faire quand même. Hein. Et ça casse les gens, quoi. On est encore à nos machines qui sont déjà en train de mettre des collants en disant à garder la machine, mais pas l'ouvrière, quoi. Hein.
C'est parce qu'ils nous ont fait un coup quand ils ont fait ça. Hein. Ou alors ils auraient dû le faire, mais quand on n'était pas là. Le faire sans que l'ouvrière s'en aperçoit. Parce que bon, tu fais ton travail, tu penses pas tous les jours que t'es dans l'ambiance, donc tu penses pas que ça va fermer, t'es toujours...
On a toujours un espoir, voilà. Et on se bat pour ça.
Parfois, en plein milieu d'une réunion, Bernard Arnault s'interrompt et vient jouer quelques notes.
De temps en temps, comme tout chef d'entreprise, il y a des soucis et puis c'est bien de les évacuer et de penser à autre chose. Ça permet d'ailleurs de garder les idées claires.
Nous ne sommes pas chez lui, mais au 7e étage du siège de LVMH. Son salon de musique se trouve juste à côté de son bureau. Il n'a pas commencé sa carrière dans l'industrie du luxe. Sorti de Polytechnique, ce fils de bonne famille du Nord a transformé l'entreprise de travaux publics de son père en société immobilière. Les maisons Ferinel, c'était lui.
Chérie, qu'est-ce que tu fais ?
Bah, je fais le tour du propriétaire. Propriétaire à la
montagne. Mais son premier coup d'éclat a lieu en 1984. Il a 35 ans. Avec l'accord du gouvernement Fabius, il promet de redresser le groupe textile Boussac et de sauver les emplois. 3 ans plus tard, il fait tout le contraire. Licencie, revend Boussac par petits bouts et garde un joyau, la maison de couture Dior. Dior, une marque qu'il valorise et qui fonde son empire du luxe. Deuxième coup financier en 1989. Les deux patrons de Louis Vuitton et de Mwetensi l'appellent en renfort pour contrer une OPA hostile du groupe anglais Guinness. Avec le sourire et sous les flashs des photographes, Bernard Arnault vole à leur secours. Puis il fait volte-face. Il s'allie à l'ennemi Guinness pour prendre seul le contrôle de LVMH. Ah,
portable.
C'était une...
Allô, François.
François, ben j'arrive.
On arrive, là.
Ben bon, hein, on est dans les temps. Hein.
Quelle heure il est ?
9h30, je crois que l'assemblée, c'était 9h30, non ?
C'était l'assemblée, 10h30.
Ouais, bon, c'est bon, on est dans les temps. Bernard Arnault, nous voilà.
Bernard Arnault, nous voilà, dit Marie-Hélène Bourlard, avec toutes les ouvrières, une centaine des ouvrières de cette entreprise ECCE, donc qui craignent, redoutent un licenciement et qui donc arrivent à cette assemblée des actionnaires, l'assemblée annuel des actionnaires de LVMH. Pour cela, je le rappelle, c'est possible pour chacun. Hein. Il vous suffit d'acheter une action et vous devenez actionnaire. Et vous pouvez assister à une assemblée d'actionnaires et vous pouvez poser des questions. On doit vous répondre et c'est ce qu'elles vont faire. Alors, c'est peut-être pas des questions très très attendues par les organisateurs et par la direction de cet important groupe de luxe, les LVMH, mais c'est évidemment, c'est le but de la manœuvre.
C'est pas facile d'approcher Bernard Arnault. Et c'est François Ruffin, un journaliste de France Inter, qui m'a dit la date de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Donc on a dit, bah, ça serait bien qu'on va vers eux, vu qu'ils ne viennent pas vers nous. J'ai pris une action pour pouvoir rentrer à l'Assemblée Générale. Hein. Ça m'a coûté quand même 86,10 € l'action, hein, plus des frais de poste, enfin une ouverture de compte, tout ça. J'ai dépensé 118 € et quelque chose. Mais c'était pour pouvoir rentrer à l'Assemblée Générale des Actionnaires et puis dire tout haut ce que j'ai envie de dire. Quoi.
Et votre banquier, il a dit quoi quand vous êtes allé acheter l'action ?
Elle m'a regardé tout bizarrement. Elle me dit une action, mais vous ne voulez pas plus ? J'ai dit non, une. Elle dit c'est pas votre genre acheter des actions. Ben, j'ai dit il faut changer dans la vie, hein. Maintenant, je vais être actionnaire. Et moi, à mon avis, j'avais pas la tête à avoir des actions, quoi. Faut être bien présentable, sûrement. Ceux en costume, comme le 440, quoi, hein, tous ses amis.
Qu'est-ce que vous allez faire des dividendes que vous allez avoir ?
Je vais sûrement les dépenser, hein, parce que un ouvrier dépense tout, hein. C'est pas qu'il est dépensier, mais on a tellement du mal à arriver que nos salaires passent dans la vie courante de tous les mois, quoi. Et c'est sûr que un actionnaire, lui, il mettra plutôt de côté. Tandis que nous, on a du pouvoir d'achat, on achète pour nos enfants, pour la famille, quoi. Nous, on fait vivre l'économie. Moi, j'aimerais demander à LVMH, Bernard Arnault, j'espère que je le verrai, qu'il revienne sur son contrat, qu'il revienne et qu'il nous donne des pièces à fabriquer à Poix du Nord. Que les filles de CCE, les ouvrières, les petites mains, qu'ils ont tant travaillé pour Kenzo, donc leur griffe, Givenchy, elles sont là, elles attendent qu'ils sortent, ou moi, qu'ils nous regardent en face. Nous, on voudrait le voir pour dire, voilà, il y a ici 147 ouvrières et on veut pas se retrouver demain au chômage.
Et aux actionnaires ?
Je pourrais me retourner aussi sur eux et dire, est-ce qu'ils n'ont pas honte de ramasser de l'argent alors que 147 vont être sur le carreau ? Est-ce qu'ils n'ont pas une conscience ? Est-ce qu'on peut pas faire autrement ? Je sais pas comment je serai devant eux, mais je vais oser parler, hein. Je vais pas avoir peur, c'est pas eux qui me font peur, hein. Parce qu'ils s'en sont mis plein les poches quand même grâce à nous, hein. Donc ils nous doivent quelque chose en retour.
Dans ce grand champ,
c'est C'est qui chante fort?
Gilbert Bécaud.
Ah, Gilbert Bécaud, ouais.
Bon, ben c'est gay quand même dans le tocard, hein, c'est gay. On va à Paris, après tout, c'est une sortie, on s'est fait belle, etc. Mais surtout que, il y en a une qui est devenue actionnaire. Et c'est pas rien. Et c'est Marie-Hélène Bourlard. Et ben voilà, il faut se dépêcher maintenant parce que l'assemblée des actionnaires va commencer.
Donc, moi, comme j'ai une convocation, je vais rentrer à l'intérieur. Et je vais essayer, je dis bien essayer, d'inviter Bernard Arnault et ses actionnaires de sortir. D'abord, on va se faire entendre. J'espère que vous crierez toutes vos forces. Enfin, pas maintenant, quand on va être devant la porte.
Hein.
J'essaierai d'inviter Bernard Arnault, s'il veut bien me suivre. À vous rencontrer. Hein, nous, tout ce qu'on veut, c'est du travail. On veut qu'il change le contrat. Alors, quand je serai à l'intérieur, n'hésitez pas à crier. Hein. Je vous fais confiance. Du travail. Ah, mais moi, je reste toujours calme, hein. N'oubliez pas que maintenant, je suis actionnaire.
Ah ouais. Wouh. Allez, bon courage à Marie-Hélène.
Vous nous suivez, hein?
Ah oui, ah ouais.
J'ai le cœur qui bat. Je voudrais bien être déjà à l'intérieur. On verra bien, hein. Donc, c'est ici.
Je crois que c'est ici l'entrée. Et après, normalement, c'est fléché. Donc, on va...
D'accord.
Excusez-moi, bonjour. On cherchait l'assemblée des actionnaires. Tout droit au fond. Vous avez vos papiers, Marie-Hélène, l'actionnaire?
Oui. Oui. Pour être à l'intérieur de cette assemblée générale.
Allez-y vite avant qu'il ferme. Et pourquoi vous lui fermez la porte? Cette dame est actionnaire.
C'est un actionnaire, moi.
Attendez,
je suis actionnaire. J'ai quand même le droit d'être à l'intérieur. Allez-y. Attendez, je ne veux pas être bousculée, monsieur. Je suis actionnaire. N'oubliez pas de gueuler.
Allô, François. Elle est rentrée en dernier. On a failli tout fermer parce qu'on a lavé les banderoles. Mais elle est là. Voilà, elle est à l'intérieur. Bon, à tout à l'heure.
On attend toujours, monsieur Bernard.
Alors, si vous voulez bien, maintenant, voilà le premier clip des questions qui ont été réunies par notre service de communication auprès de nos actionnaires.
Les trois quarts d'entre vous mettent en avant la stratégie du groupe comme le centre d'intérêt majeur de l'Assemblée. L'année 2006 a confirmé l'excellente vitalité des grandes marques qui ont contribué de se renforcer et de gagner des parts de marché. Mais se demandent nombre d'entre vous, quelles sont les marques stars montantes de LVMH qui vont assurer des relais de croissance pour demain? Autre question que vous suggérez sur ce thème, quelles sont les régions du monde où le groupe pense pouvoir accélérer sa croissance? Quelles sont les ambitions de LVMH sur les nouveaux marchés émergents comme la Chine, l'Inde et l'Europe de l'Est? Comment évolue la part de marché du groupe sur ces régions? Enfin, vous vous demandez, quels sont les projets de croissance externe de LVMH? Le groupe songe-t-il à des projets de rapprochement avec d'autres domaines du luxe?
On est dans le hall avant d'entrer dans l'Assemblée Générale des Actionnaires. On nous a remis un petit boîtier pour voter. On nous invite à aller nous inscrire au Club des Actionnaires qui propose... des réductions, des avantages sur les produits LVMH, sur quels produits, sur des parfums, sur du maquillage, sur des bouteilles de mousse. On peut même aller faire des séjours en province et aller déguster du cognac à meilleur prix. Comme là, dans l'équipe, on est tous devenus des petits actionnaires. On a investi dans LVMH, on croit en LVMH, on croit au potentiel de croissance du luxe. Une personne me l'a confié tout à l'heure. De toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter avec le luxe. Il y a de plus en plus de riches et ils sont de plus en plus riches.
Voilà, alors, vous avez compris que notre reporter est en bédède. François Ruffin est en bédède, ainsi que Pascal Pascariello. Ils sont là, ils sont, mais alors, clandestins, hein, faut pas, vous ne direz pas, hein. Ah oui. Et alors, ils sont pas les seuls. Il y a aussi, donc, Marie-Hélène, Bourlard, qui rêve de parler avec Bernard, Arnaud, elle est là aussi. Et il y a également, Madeleine Charton de la Samaritaine, qui est déléguée syndicale. Voilà. Et voilà la petite équipe. Et puis, il y a également, un ami qui s'appelle Bertrand. Bertrand aussi fait partie des embêtettes.
Alors, Bertrand est en train de discuter avec un actionnaire.
Vous êtes inscrit au club des actionnaires, non?
Oui, oui, non, mais je veux juste savoir quand est-ce qu'ils donnent les cadeaux, parce que je crois que chez Vinci, moi.
C'est la fin de l'assemblée, et c'est vers 13h.
Parce qu'il y a une époque où ils distribuaient les cadeaux avant?
Non, jamais.
Il y en a qui distribuent Air Liquide Total distribué avant, je crois.
Non, plus Total.
Mais Air Liquide distribué avant.
Je ne sais pas ce qu'on a à la sortie. Qu'est-ce qu'on a à la sortie? C'est la première fois que j'assiste à ça.
C'est un cadeau. C'est une bouteille de champagne. Bien, ça dépend des années. Ouais. Hein, ou leur cognac, parce qu'ils ont du cognac NC. Voilà, c'est ça.
Vous pensez que c'est pour ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vient là.
Oui, oui. Si. Et c'est surtout pour ça. Puis il y a un cocktail aussi.
Après
voilà. Oui. Ah bon. Il y a un cocktail où ils donnent tout leur champagne. Hein, donc.
Il y a un cocktail.
Ah, d'accord. Je suis Bernard Arnault et
on va. Ah, ça commence. D'accord, on va y aller.
La situation financière.
Merci.
Alors là, on rentre dans l'Assemblée Générale des Actionnaires. C'est une salle. Ouh là là, c'est une salle immense. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Si, tout au fond de la salle.
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes très nombreux cette année. Je vous remercie de votre présence et je déclare l'Assemblée Générale ouverte. Je voudrais souligner la performance excellente de votre groupe en 2006 avec, comme vous l'avez vu dans les résultats, une forte croissance organique des ventes, 12% à laquelle contribuent toutes les zones géographiques et tous les métiers du groupe, puisque le résultat est en croissance à deux chiffres dans tous les secteurs d'activité. Un résultat opérationnel courant en augmentation de 16% pour l'année 2006. Une amélioration de la marge opérationnelle et un résultat net en hausse de 30%. Le groupe a encore renforcé en 2006, on peut le dire, son avance sur le marché mondial du luxe grâce au succès de nos marques phares et grâce à l'émergence d'un certain nombre de marques que nous avons développées avec un grand succès en 2006.
Voilà, on est assis presque au dernier rang dans cette salle qui est vraiment immense, immense. On est très loin, très loin. Et on voit juste un tout petit peu la tête de Bernard Arnault. Heureusement, il y a des écrans qui retremblent, on se met le discours, mais on n'entend pas tout.
Aujourd'hui, on peut dire que près de la moitié des postes de cadre sont pourvus par mobilité interne. C'est sûr que
depuis une heure au moins, Bernard Arnault tient un discours, montre des petits films, des schémas, des graphiques qui disent tous que tout va pour le mieux dans le groupe LVMH. Le dividende sera en hausse de 22%, le cours de l'action a augmenté, un résultat net qui est de plus de 2 milliards d'euros. Mais vraiment, tout va bien. C'est un peu ennuyeux. D'ailleurs, derrière nous, un monsieur demande à sa femme de rentrer parce qu'il s'ennuie et sa femme ne veut pas. Elle lui dit de ne pas oublier le petit cadeau à la sortie.
Entre la France et certains pays d'Europe, nous, voisins de l'Europe. Est-ce que Givenchy, devrais-je le seul sur le marché français, national, à donner ses costumes de tous les pays et de tous les pays.
Ouais, alors c'est un peu long, hein, dans l'assemblée, les actionnaires, ils s'ennuient, ça roupille même un petit peu, c'est long, c'est très très long. Ils pensaient assister à la grande messe de la rente, et non, ils roupillent. Mais il y a quelque chose qui les réveille un petit peu, ces braillements à l'extérieur de la salle, et ben voilà, ce sont les salariés qui risquent d'être licenciés des entreprises dépendantes de LVMH qui protestent. Alors évidemment, ça gêne l'Assemblée et on va avoir une chargée de communication qui va essayer d'engager le dialogue.
C'est pas en hurlant que vous réglerez quoi que ce soit.
Si, mais vous savez bien, si à un moment donné, vous avez un gagne-pain, hein, je sais bien, vous avez un gagne-pain, ce gagne-pain vous est enlevé. Vous savez que vous n'allez plus pouvoir nourrir vos enfants.
Je comprends, madame. Je suis mère avec quatre enfants.
Vous ne pouvez que
crier. Oui, mais ça n'est pas en criant que vous allez pouvoir régler. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Et je comprends, bien sûr.
Si à un moment donné, elle se heurte à un mur qui dit ce mur-là, non, c'est terminé. Il n'y a plus de travail pour vous. Il n'y a plus de travail.
Là-dedans,
regardez cette dame-là. Cette dame.
J'ai un homme malade, tout ça.
Ouais. Elle ne retrouvera pas de travail. Elle ne retrouvera pas de travail.
C'est peut-être quelque chose qui peut être négocié éventuellement avec le groupe en termes de reclassement. Il faut regarder tout ça.
C'est ce que c'est.
Mais ce n'est pas maintenant, tout de suite. Moi, je dirige la société Capitalcom qui organise l'Assemblée Générale.
D'accord. Et donc vous êtes venu pour essayer d'expliquer
De calmer un peu, d'apaiser le climat.
Est-ce que vous pensez que c'est pas bien de hurler aux portes de l'Assemblée?
Non, je crois que c'est pas comme ça qu'on règle les conflits. On a organisé une séance de négociation avec le directeur des affaires sociales et je pense que c'est plus efficace. Ça ne peut pas se passer comme ça, malheureusement.
Pourquoi ça ne peut pas se passer comme ça? C'est effrayant.
On est en pleine séance d'assemblée. L'assemblée est une institution qui est privative, qui est réservée aux actionnaires. C'est juste pas possible. Ce sont des questions qu'il faut négocier au cas par cas et qu'il ne peut pas faire, en tout cas, pas dans le contexte de l'assemblée générale. C'est pas le bon contexte pour ça.
Et vous êtes, monsieur?
Non, moi, je m'occupe de l'organisation. Moi, je pense surtout aux actionnaires.
On attend toujours Monsieur
Bernard. Jean-Pierre Elkabbach, votre invité ce matin, le PDG de LVMH, Bernard Arnault.
Je crois qu'il reste en France un fond de culture socialo-marxiste qui a totalement disparu chez nos principaux concurrents.
À quel exemple vous pensez quand vous dites il y a un fond de pensée, vous dites socialo-marxiste, d'ailleurs cette formule on l'utilise plus.
On l'utilise plus, mais quand on entend des discours où on parle de profit fainéant, hein, où on parle de répartir la richesse alors qu'il faudrait mieux essayer de la créer, c'est ce qu'ont compris tous nos principaux concurrents. Quand on voit que l'image des entreprises françaises n'est pas bonne, quand on voit que le mot libéralisme est un mot qui est proscrit, j'étais la semaine dernière en réunion avec le président de la République italienne, Monsieur Napolitano, qui est d'origine communiste. Et il m'a dit, mais comment se fait-il qu'en France, le mot libéralisme soit à ce point tabou, alors qu'ici, en Italie, c'est au contraire un mot à la mode.
Maintenant, nous allons, avec l'ensemble des membres du comité exécutif, répondre à vos questions.
Bernard Arnault a terminé son long speech et il a ouvert la séance des questions. Marie-Hélène Boulard et Madeleine Charton se sont immédiatement levées et elles se sont précipitées sur l'hôtesse qui leur a attribué par une pancarte qu'elle soulève là dans l'allée, le chiffre 12, mais c'est la question 3. C'est la question 3 qui est choisie.
Alors, que va-t-il se passer? Marie-Hélène Bourlard parviendra-t-elle à poser sa question? C'est toute la question.
Dernière question, numéro 1. Et bien entendu, ensuite, l'équipe sera avec vous pour répondre directement aux questions pendant le cocktail.
Alors là, Marie-Hélène Bourlard et Madeleine Charton proteste auprès de l'hôtesse parce que Bernard Arnault vient d'annoncer la dernière question et qu'elles n'ont pas pu poser la leur. Or, Marie-Hélène Bourlard, qui a fait 200 km pour poser sa question à Bernard Arnault, elle proteste auprès de l'hôtesse. Non, mais C'est la dernière question. La question ne sera pas posée. Alors Marie-Hélène Bourlard s'avance dans les allées. Elle se dirige vers l'estrade.
Vous savez que le parfum...
Oh la vache. C'est impressionnant là, de marcher, d'avancer comme ça vers l'estrade devant des centaines, des milliers de petits actionnaires qui sont venus pour écouter parler de leur dividende. C'est impressionnant quand même de se retrouver, d'aller au-devant chatouiller la première fortune de France, sans doute. On découvre le premier rang. Au premier rang, devant Bernard Arnault, donc témoin du mariage de Nicolas Sarkozy. Et il y a Arnaud Lagardère, bien bronzé, qui s'est déclaré frère de Nicolas Sarkozy. Antoine Bernheim, le banquier de Lazare, qui était au Phuket le dimanche soir de la victoire de Nicolas Sarkozy.
Est-ce que vous êtes prêts à faire moins de bénéfices pour re-signer un nouveau contrat avec ECCE pour garder la production française? Parce que c'est 147 salariés qui vont être dehors.
Même si vous utilisez une dialectique adaptée à votre fonction de syndicaliste.
Mais vous mettez dehors 147 salariés.
Et que si nous avions annulé le contrat, il n'y aurait pas eu de problème, on n'en aurait pas parlé.
Vous continuez à délocaliser dans les pays de l'Est. Il y a les 147 salariés, je voudrais que vous les voyiez et que vous osez les voir là dehors en face et leur dire je ne veux plus travailler avec vous.
Madame, il y a ici 2000 personnes qui sont venues pour entendre parler du groupe LVMH.
Est-ce que les petits actionnaires sont prêts à perdre un peu d'argent pour que 147 salariés vivent encore?
Je suis désolé des problèmes que
c'est bien.
Aux personnes.
Il y a des salariés qui attendent une réponse dehors.
Je pense que le mieux, ce serait qu'on puisse se parler dehors.
On vous a déjà écrit, vous n'avez même pas la politesse de répondre.
Alors là, il y avait déjà les vigiles qui se trouvaient devant nous. Il y avait déjà les vigiles qui nous empêchaient de passer. Mais là, en plus, il y a les services de la communication, les services sociaux de LVMH qui font barrage aussi, qui viennent à notre rencontre, qui viennent discuter pour nous faire sortir.
C'est votre collègue?
Ça, c'est la Samaritaine. Là aussi, on les a mis dehors. Et alors? Elle a le droit, vous lui avez pris du travail.
Madeleine Charton est en train de... dans un face-à-face avec Bernard Arnault, sauf que Bernard Arnault a le micro et Madeleine Charton ne l'a pas. Donc d'ici, on n'entend rien, on cherche à passer. Mais le vigile ne veut pas qu'on passe. On voit bien quand même à la tête de Bernard Arnault que c'est comme, un peu comme si on lui gâchait sa fête d'anniversaire. Il n'est pas content.
C'est jamais l'heure, c'est jamais l'endroit. Tout de suite, les gros bras, on est des salariés, monsieur, on est dignes. On veut du travail et rien d'autre. Et que les actionnaires s'en foutent moins dans les poches.
Pourquoi ne pas faire une proposition?
Vous êtes un partenaire et on va
pourquoi
regarder.
Pourquoi ne pas faire une proposition?
On va regarder.
Vous êtes un
partenaire d'Elvémage.
Moi, j'aimerais avoir le micro pour faire une proposition. Pourquoi on ne proposerait pas?
C'est pas dans ce contexte-là.
Pourquoi? Mais pourquoi? Attendez, mais pourquoi? Je veux dire, effectivement, pourquoi on ne peut pas proposer qu'effectivement il y ait une diminution des dividendes pour régler ce problème-là? Mais attendez, mais pourquoi on ne peut pas demander qu'il y ait une diminution des dividendes pour régler ce problème-là?
Oui, il y a une diminution des dividendes!
Mais pourquoi on ne ferait pas une proposition? Mais attendez, mais on peut faire une proposition, vous répondez, puis c'est bon, on s'en va!
Mais pourquoi ne la bousculez pas, vous, hein?
Personne ne la bouscule.
On dérange, hein? On dérange parce qu'il y a 147 chômeurs dehors et la Samaritaine aussi.
Franchement, je crois pas que vous faites une unité ici.
Pourquoi on ne peut pas faire une proposition? On est en phase d'actionnaires. Pourquoi on ne peut pas leur faire une proposition en disant... Mais non, mais pourquoi on ne peut pas faire une proposition? C'est pas le lieu de quoi? Le lieu de quoi? C'est une démocratie. C'est une démocratie. Non, c'est pas une démocratie, c'est quoi?
On vous propose justement que dans le cadre du dialogue social, on organise maintenant une réunion.
Mais attendez, moi je suis actionnaire, moi je suis pas salarié. Moi je suis actionnaire.
C'est pas possible qu'on a travaillé des années pour Kenzo, qu'on a fabriqué du haut de gamme, les petites marques, et qu'on va nous foutre dehors comme des malpropres, alors que LVMH s'en fout plein les poches.
Ça n'est pas en assemblée qu'on peut régler ce type de conflit.
On peut proposer un 3-3.
Le cas de CC est un cas particulier, puisque vous n'êtes pas salarié du groupe.
Nous, ce qu'on veut, madame, c'est du travail.
Vous avez Pierre-Yves Roussel qui est ici. Je suis secrétaire général du groupe. On peut y aller maintenant.
C'est-à-dire, si vous on retourne devant les gens qui vous ont délégué.
Tout à fait. Nous sortons.
Très bien. Mais on vous accompagne.
Avec vous. Avec Bernard Arnault, on se reverra.
Oui.
On va négocier. On est poussé vers la sortie. On nous invite à sortir, à la fois les vigiles et les membres du conseil de LVMH. Il y a le premier rang, il y a Antoine Bernheim notamment, au premier rang, qui applaudit notre éviction.
Croyez-moi que j'ai parlé là-bas, on ne m'a pas donné la parole, mais je l'ai pris. Et Bernard Arnault, il m'a écouté, il ne m'a pas répondu, ça c'est sûr. Parce que tout ça, s'il n'y a pas l'habitude de voir ça. Croyez-moi que la copine de la Samaritaine et votre délégué CGT a intervenu. Nous, tout ce qu'on veut, c'est revoir le contrat. Donc, il y a le responsable ici. Et monsieur...
Sanchez. Vous m'entendez ? Il faut que j'appuie sur le bouton. Voilà.
Vous n'avez pas l'habitude. Au revoir, vous n'avez pas l'habitude. Allez-y.
Je manifeste assez rarement. Je viens de recevoir une délégation. Arrêtez ça, je vais parler fort. Je viens de recevoir 5 personnes qui ont été désignés. Je crois que ces personnes sont par là. Voilà. On a discuté. Je suis désolé, je n'avais pas prévu d'avoir un micro.
Nous non plus, on n'a pas eu de micro et on a été obligé d'élever la voix. Voilà. Nous non plus, on ne nous a pas donné le micro.
Donc, nous ne vous attendions pas spécialement. Je vous reçois parce qu'il est normal que vous soyez reçus. J'ai rencontré cette délégation de 5 personnes qui vous représentent, qui m'a rappelé la situation dans laquelle vous êtes, les difficultés, le plan social, ce que vous contestez, ce que vous ne comprenez pas, qui vous paraît incompréhensible.
Il faut revenir sur des productions françaises, monsieur. C'est notre survie à Poix du Nord.
Madame, on me l'a dit, et j'ai bien compris le message. Des incompréhensions que vous perceviez entre les uns, les autres, et d'une situation que vous ne pouvez pas comprendre.
Nous comprenons très bien que LVMH veut s'en foutre plein les poches. Et ça, on l'accepte pas.
Je ne peux pas. Attendez. Une situation que vous ne compreniez pas, qui ne vous semblait pas logique, et sur lesquelles vos représentants ont dit qu'ils souhaitaient qu'il y ait une table ronde intégrant les représentants des salariés, les représentants de LVMH, les représentants de votre entreprise, de CCE, les élus locaux. J'ai entendu cette demande. Je me suis engagé à faire remonter le message aujourd'hui même à la direction générale du groupe LVMH. J'espère que nous pourrons, avec les uns et les autres, sortir de cette situation.
D'ici 15 jours,
par exemple, vous allez leur donner une réponse. D'ici 15 jours,
ça me paraît possible, oui. Tiens, dans 15 jours, hein, dans les 15 jours, parce qu'on se reverra, monsieur. On ne vous laissera pas comme ça. Hein. Donnez un tract à monsieur Bernard Arnault.
Écoutez, je vous souhaite un bon retour.
Alors voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Mais ensuite, les actionnaires, eh ben, sont sortis de la salle au bout de cette comment on va appeler ça, un psychodrame, un petit drame, un petit trouble, des petits moustiques qui sont venus troubler une séance paisible. Attention, il y a des moustiques qui vous collent le palu.
Je voudrais avoir votre sentiment simplement. Je suis élue.
Oui, bah c'est très bien.
Je vous demande continuez. Ce que vous en pensez de mettre 147 familles, briser 147 familles, 147 mamans sans travail.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ?
Eh bien, je trouve que c'est très bien. Il n'avait qu'à se démerder avant.
Mais c'est eux qui ont produit la richesse. C'est leur travail avec leurs mains, ce sont des petites
mains.
Madame,
ça fait 40 ans que les ouvriers...
Elles travaillent très bien.
Ça fait 40 ans que les ouvriers se laissent massacrer, piétiner et n'ont rien fait.
Et vous n'auriez pas voulu baisser votre dividende de 0,01% et que
la question n'est pas là. La question, c'est que les ouvriers se laissent marcher sur les pieds depuis des années et des années et qui ne bougent pas et qui sont contents de voir des gens qui ne foutent rien et qui s'en mettent plein les poches.
Mais c'est pas vous qui les piétinez des fois ? On engrange des dividendes quand on licencie et qu'on délocalise ?
Non, ceci est un autre problème.
Non, mais c'est vrai, l'action augmente.
Ceci est un autre problème. Ils sont 145, là, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 40 ans ? Rien. Ils ont absorbé, ils se sont contentés de ce qu'on leur disait, de ce qu'on leur donnait, et puis voilà. Et puis ils ont essayé surtout d'en faire le moins possible, parce que de toute façon, pour ce qu'ils sont payés, ils en font le moins.
Et vous, quand Bernard Arnault augmente sa fortune de 3 milliards d'euros l'an dernier et qu'on délocalise, vous ne trouvez pas que c'est un peu Bernard Arnault qui les piétine?
Mais bien sûr que si. Et alors, où est le problème? C'est pas en faisant ça, hein? Certainement pas. Il faut pendre les gens, mon vieux. Faut les pendre.
Faut pendre Bernard Arnault?
Ben, entre autres. Entre autres.
Vous êtes un actionnaire radical, vous?
Je ne suis pas un actionnaire radical. Je suis un actionnaire simplement. Simplement un actionnaire qui regarde qui se fait piétiner et qui s'enrichit ou qui piétine les autres. Eh ben, c'est simple. Il y a les exploiteurs et les exploités. C'est tout. Il faut choisir dans quel camp on veut se mettre.
Vous, vous avez choisi d'être dans le camp des exploiteurs?
Des exploités, mon vieux.
Ah bon? Mais vous êtes actionnaire, quand même.
Et alors? Eh ben, en tant qu'actionnaire, je suis exploité, puisque je suis un actionnaire minoritaire. Là, il y a eu des votes, parce que vous ne savez pas grand-chose. Il y a des votes. Tous les gens qui étaient là, ils peuvent toujours voter contre. 95% sont dans les mains de 3 mecs. Point, terminé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si on n'est pas d'accord, il faut les pendre.
Et vous, vous seriez prêt à ça?
Bien sûr, je fus prêt à ça.
Bonne journée, monsieur.
C'est l'extrême gauche qui fait ça.
Vous croyez?
Oui, bien sûr. C'est parce que monsieur Bernard Arnault est copain avec Sarkozy. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On va avoir de plus en plus de mouvements de ce genre. Et c'est la démocratie qui est en jeu.
Là, la démocratie actionnariale, surtout, qui est menacée?
Non, pas la démocratie actionnariale, la démocratie tout court. Parce qu'en France, on ne peut pas être de droite. On ne peut pas prôner le travail, prôner tout ce qui concerne, je dirais, le courage. Moi, j'ai 64 ans, je continue à travailler parce que je trouve que c'est normal.
Mais ces personnes-là, elles voudraient justement continuer à travailler.
Oui, mais bon, ça fait partie, je dirais, malheureusement, de la mondialisation. Ça me scandalise tellement que je trouve, j'assiste, je suis un vieil actionnaire de LVMH, il ne s'est jamais passé quoi que ce soit chez LVMH. Ils sont venus pour faire le bazar.
Ils sont odieux, odieux. Il n'y a pas de sentiment, il y a le porte-monnaie, il y a le portefeuille. C'est... Enfin, bon sang, quand on vous explique qu'il y a 147 femmes qui ont un savoir-faire, qu'on va jeter à la rue, ça ne peut pas laisser indifférent. Moi, je ne crois plus en rien.
Pendant l'Assemblée.
Le 440 est très indifférent aux petites mains de CCE. Ça, je m'y attendais. Ça ne me blesse même pas. Au contraire, on est digne de dire ce qu'on pense devant ce monsieur à qui ne daigne même pas venir s'expliquer.
5 minutes avant qu'on rentre dans la salle, vous me disiez oui, j'ai un peu le trac quand même.
J'avais les boules. Mais après, quand je les entendais parler, je me suis décontractée parce que je vais dire, mais qu'est-ce que c'est que ces guignols qui parlent? Pour moi, c'était vraiment des guignols. Et ils me parlaient rentabilité, pognon. C'est écœurant. Les ouvriers, on nous traite souvent de racailles. C'est eux la racaille en premier. Et je le dis fortement.
Mais on aurait dû acheter plusieurs actions.
Ouais.
Ça coûte beaucoup d'argent?
100 euros, ouais. Ça, je le garde, c'est mon carton d'Assemblée Générale. Regardez, LVMH, Assemblée Générale, le 10 mai. Le conseil d'administration de LVMH aura le plaisir de vous offrir un produit du groupe à l'issue de l'Assemblée. Mais je ne l'ai pas eu.
Vous n'avez pas eu le champagne?
Non. Ben non, ils nous ont virés.
Bon, on y va les filles.
Ouais, là, sur les bus,
on y va.
On va au bus, hein.
Ah bon, d'accord.
Bon, François, je te dis au revoir.
Ça va, à bientôt. Vous avez passé
la journée, vous êtes content? Ouais, ça a été super. Au revoir. À bientôt.
À bientôt. Hein?
Nous, il faut rentrer dans le nord et après...
C'était...
C'était une nouvelle diffusion du reportage de François Ruffin et Pascal Pascariello de mai 2007. Merci à Madeleine Charton et aux licenciés de la Samaritaine, à Marie-Hélène Bourlard et aux ouvrières de CCE, ainsi qu'à Monsieur Baudou, maire d'Aulois-Henry. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Julien Michel, à la réalisation Coy Nguyen et Raphaël Mouterde, assisté de Charlotte Perry. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Agnès Lebotte qui écoute vos messages.